C'est par la vérité que la terre porte les êtres. Par la vérité que le soleil se lève. Par la vérité que le vent souffle. Et par la vérité que les eaux coulent. La vérité est le don suprême. La vérité est la sève suprême. La vérité est la loi suprême dans le monde. Voilà ce qui a été révélé. En bref, les dieux sont vérité, les hommes mensonges. Celui dont la pensée se tient dans la vérité, il devient un dieu ici-bas. Ces vers, je les ai découverts dans un ancien corpus de textes législatifs composés vers l'an 200 en Inde. Même si rien ne nous garantit que celui dont la pensée se tient dans la vérité devient ipso facto un dieu ici-bas, la parole de Pascal citée par Emmanuel Falk, misérable ver de terre, dépositaire de la vérité, définit la condition humaine comme telle. Ce texte nous invite à nous demander, question phénoménologique et herméneutique en même temps, comment faire pour nous tenir dans la vérité et ce qui nous arrive dès lors que nous parvenons à le faire. Pareille question est-elle encore de mise à notre époque, me souffle immédiatement un malin génie sceptique, où se multiplient les conceptions dites déflationnistes ou minimalistes de la vérité, qui prétendent qu'un débat autour du problème de la vérité, ce n'est que beaucoup de bruit pour rien. Si j'étais déflationniste, j'alléguerais en ma faveur le fait que dans la tradition philosophique occidentale, le premier ouvrage qui a pour titre « Vérité » a pour auteur le sophiste Protagoras. Mais, selon l'interprétation qu'on donne du célèbre adage d'après lequel l'homme est la mesure de toute chose, Protagoras pourrait tout aussi bien être un phénoménologue avant la lettre. Ayant construit mon nid, qui est aussi un observatoire et une piste d'envol pour Minerva la chouette philosophe, sur l'embranchement herméneutique de l'arbre husserlien, il faut bien que j'invente ma propre version de ce que Husserl, dans le célèbre appendice 28 du paragraphe 73 de la Crisis, appelle le poème de l'histoire de la philosophie que chaque penseur autonome doit inventer pour se comprendre lui-même et son projet, et celui-ci en rapport avec celui des autres et avec leur poème, et finalement à comprendre le projet commun à tous. S'agissant de la vérité, mon poème, entre guillemets, revêt la forme d'une méditation sur les rendez-vous avec la vérité que j'espère achever prochainement aux éditions du Seuil, si bien nommées. À l'origine de cette recherche, il y a une confidence de Romano Guardini. Je cite: ce que je cherchais d'emblée, d'abord par instinct, puis de façon de plus en plus consciente, c'était de faire briller la vérité. La vérité est une puissance, mais cela, elle ne l'est que si l'on n'en attend pas une efficacité immédiate. Il faut au contraire faire preuve de patience et compter sur le long terme. Mieux encore, il ne faut même pas songer à des effets, mais la présenter pour elle-même en sa grandeur sainte et divine. C'est ce que j'ai expérimenté souvent, parfois, en particulier au cours des dernières années, j'avais l'impression que la vérité se tenait devant nous tel un être vivant. Ces dernières années, c'était les dernières années de l'enseignement berlinois de Guardini, alors que le nazisme montait en puissance. On ne fait pas briller la vérité comme on polit ses chaussures. Son éclat ne devient perceptible qu'au sein d'une rencontre qui, pour le sujet concerné, peut être aussi bien une épreuve. Au terme des travaux de cette magnifique décade, je me sens un peu mieux armé pour envisager cette question avec les yeux de Husserl, quitte à lui imprimer une inflexion plus herméneutique. Ici n'est pas le lieu de détailler les différentes stations de l'histoire des rendez-vous philosophiques avec la vérité qui, pour nous autres occidentaux, commence avec le prologue du poème de Parménide. Il décrit, comme vous le savez, le voyage d'un jeune homme qui, s'avançant sur un chemin à l'écart des chemins usuels des hommes, paradoxal, le conduit à la demeure d'une déesse anonyme, que Heidegger s'empresse d'identifier avec la déesse Aletheia, qui l'initie à la vérité bien arrondie en elle-même et lui apprend à gérer les opinions des mortels qui ne sont pas entièrement dignes de confiance. Une autre séquence importante de mon poème « Des rendez-vous avec la vérité que je forge pour me comprendre moi-même en tant que chercheur de vérité » se rapporte au trialogue inachevé et dont la datation est incertaine de Descartes intitulé « La recherche de la vérité par la lumière naturelle ». La réplique 59, dans laquelle apparaît le terme « conscience », peut être lu comme un credo phénoménologique avant la lettre. Je cite « Une personne désireuse d'examiner les choses par elle-même et qui en juge selon ce qu'elle en saisit, dispose, si peu qu'elle ait d'esprit, d'assez de lumière pour connaître assez bien ce que sont le doute, la pensée, l'existence, toutes les fois qu'elle prête attention aux choses, sans qu'il soit nécessaire qu'on lui en enseigne les distinctions. J'ajoute même, dit Eudoxe, pseudonyme de Descartes, qu'il est impossible d'apprendre ces choses autrement que par soi-même et d'en être persuadé autrement que par sa propre expérience et par cette conscience et ce témoignage intérieur que chacun expérimente en lui quand il examine quelque chose. » Fin de citation. Premier paragraphe de ma conférence. Le phénomène vérité, quelques enjeux d'un syntagme heideggerien. Dans sa deuxième introduction à la phénoménologie, au semestre d'hiver 1923-24, c'est-à-dire son premier enseignement de Marbourg, Heidegger, qui mieux que Descartes a voulu nous apprendre ce qu'exister veut dire, mieux aussi que Kierkegaard et que Karl Jaspers, s'est livré à une longue discussion critique de la conception husserlienne de la phénoménologie qu'il ramène au souci de la connaissance reconnue, Sorge um die erkannte Erkenntnis. Pour clarifier les présupposés, les enjeux d'une philosophie de la conscience, il n'y a pas de plus court chemin que celui d'un retour à la détermination cartésienne de la vérité et de la connaissance. Ce retour ne peut être accompli que moyennant une destruction au sens proprement heideggerien d'une déconstruction, Abbau, à savoir, dit Heidegger, le rapatriement des concepts vers leur origine particulière. Loin d'être une entreprise de démolition anticartésienne qui conclurait que Descartes est inutile et incertain, la déconstruction heideggerienne nous confronte à la force de Descartes, plutôt que d'incriminer des faiblesses qui ne sont souvent que le fruit d'une lecture hâtive et superficielle de l'œuvre cartésienne. Bref, il s'agit d'interroger les critères cartésiens de l'idée claire et distincte pour se demander quelle idée de la vérité est impliquée dans le souci d'une connaissance apodictiquement certaine et quel genre de souci est présupposé dans la mise en œuvre du doute méthodique. C'est dans ce contexte que Heidegger se sert du lexème « phénomène de la vérité » qu'il utilisera également dans l'introduction de son cours sur le sophisme de Platon. Il prend le train des méditations métaphysiques en marche, non en se focalisant sur la quatrième méditation qui traite explicitement du vrai et du faux, mais sur le début de la méditation troisième où Descartes, ayant acquis la certitude inébranlable d'être une chose qui pense, s'interroge sur ce qui est requis pour le rendre certain d'autre chose que de lui-même. Le levier qui permet de faire sauter ce verrou n'est autre que la règle de l'évidence, stipulant que toutes les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies. D'après Heidegger, le mérite insigne de Descartes est d'avoir compris, mieux que les philosophes ultérieurs, la nécessité de justifier cette règle de l'évidence. Le même syntagme « phénomène de la vérité » est également utilisé dans l'important paragraphe 7 de Sein und Zeit, où Heidegger expose ce qu'il appelle le préconcept de la phénoménologie, qui nous met en mesure d'aller aux choses mêmes, à l'opposé de, je cite Heidegger, « toutes les constructions en l'air, les trouvailles fortuites, des concepts qui n'ont qu'une légitimité apparente, et des pseudo-questions qui s'imposent souvent durant des générations à titre de problème. » Les Grecs se sont montrés très sensibles à l'ambivalence constitutive de la notion même de phénomène. Le phénomène, c'est ce qui se montre, mais qui peut aussi n'être qu'apparent, un simulacre, une illusion. En phénoménologie, il est capital de partir du sens positif, se montrer, apparaître ou paraître, avant de se tourner vers le sens négatif, l'apparence, la semblance, l'illusion, le simulacre, etc. Apparition, Erscheinung, écrit Heidegger, et apparence, Schein, sont elles-mêmes diversement fondées dont le phénomène entend qu'il est ce qui se montre en lui-même. En dehors de cette thèse, c'est moi qui l'ai dit, il n'y a pas de salut pour la phénoménologie. Le discours Rede qui dit quelque chose sur quelque chose rend manifeste des lunes en grec ce dont il parle. Pour exprimer le pouvoir révélateur de l'énoncé, Aristote se sert du verbe apophainestai, faire voir. Comme la fonction monstrative ou déclarative de l'énoncé assertif, apophantique, donc, recoupe exactement le sens originel du mot phénomenon, phénomène, l'association des deux mots dans le terme phénoménologie n'a rien d'artificiel. C'est parce que le logos est un faire voir qu'il peut être vrai ou faux. Cette thèse de Heidegger a plusieurs corollaires importants pour notre recherche je commente brièvement. Premièrement, toute théorie de la vérité qui se focalise exclusivement sur le jugement non seulement rate certains aspects du phénomène vérité, mais passe à côté de la notion spécifiquement grecque de la vérité, aletheia. Deuxièmement, la vérité n'est pas principalement et primordialement un phénomène langagier, mais un phénomène sensible. Il y a une vérité originaire des sens qui précède les significations linguistiques. Avant la Bedeutung, signification des énoncés, il y a la Bedeutsamkeit, la significativité de ce qui fait sens. Troisièmement, ce qui vaut pour l'expérience sensible qui, d'après Merleau-Ponty, nous fait découvrir la chair du monde, vaut également pour l'intellect qui nous découvre les déterminations d'être les plus simples de l'étant comme tel. Une telle compréhension intellective, Vernehmen, dit Heidegger, ne peut jamais occulter, elle ne peut jamais être fausse, elle peut tout au plus ne pas être à la hauteur de la chose qu'il s'agit de comprendre, c'est-à-dire ne pas réussir à l'atteindre véritablement. Quatrièmement, loin de constituer le cœur de la vérité judificative est, dit Heidegger, un phénomène de vérité déjà fondé de multiples façons. S'il bat quelque part, le cœur de la vérité doit être cherché en dehors de la sphère judicative dont l'expression langagière est l'énoncé déclaratif ou la proposition. Cinquièmement, tant qu'on s'en tient au concept ordinaire de phénomène, ce qui se fait voir, c'est le visible. Mais loin de se confondre avec la sphère de la visibilité, certains phénomènes sont invisibles et c'est en tant que tels qu'ils se manifestent. Un affect, par exemple la joie ou l'angoisse, n'est pas visible comme l'est une maison ou un arbre. Et pourtant, nous avons affaire à un phénomène à part entière. Ce qui importe, ce n'est pas l'objet visible, mais son mode propre de manifestation, ce que Michel Henry appelle sa phénoménalité. Dans le cas d'un affect, c'est la manière dont il est éprouvé ou ressenti. Sixièmement, pour Heidegger, le phénomène au sens phénoménologique, c'est l'être d'un étant, ce qui constitue son sens et qui détermine la manière dont on peut le rencontrer ou avoir accès à lui. C'est une erreur fondamentale que de s'imaginer que le rapport entre l'étant et l'être est du même type que la relation entre avant-plan et arrière-plan, scène et coulisses, surface et fond, etc. Celui qui cherche une vérité cachée derrière les phénomènes fait tout sauf de la phénoménologie. Derrière les phénomènes de la phénoménologie, écrit Heidegger, il n'y a essentiellement rien d'autre, mais ce qui doit devenir phénomène peut très bien être en retrait. Et c'est précisément parce que les phénomènes de prime abord et le plus souvent ne sont pas donnés qu'il est besoin de phénoménologie. Derrière le phénomène vérité ne se cache pas une vérité plus substantielle, car la vérité se confond avec les multiples guises de sa phénoménalisation. Septièmement, la maxime « aller vers les choses mêmes » zu den Sachen selbst ne se réalise qu'à travers un parcours d'obstacles. Je cite encore, « le mode d'encontre de l'être et des structures d'être en tant que phénomène doit tout d'abord être conquis sur les objets de la phénoménologie. Le travail du phénoménologue, dirais-je, est un travail de reconnaissance qui doit venir à bout des résistances que lui oppose l'intuition naïve et immédiate. La déconstruction est donc une dimension constitutive de la méthode phénoménologique. Nous avons tous une paille et souvent une poutre dans nos yeux qui nous empêche de voir les phénomènes. Donc la déconstruction est une dimension constitutive de la méthode phénoménologique, ce qui veut dire inversement, alors ça c'est à l'adresse des déconstructivistes californiens que je le dis, que l'idée même de déconstruction n'est légitime et n'a de sens qu'au sein même de la phénoménologie, chose que bien des déconstructivistes contemporains ont totalement oubliée. Huitièmement, décrire et interpréter le sens des phénomènes en discernant leur mode de manifestation, leur phénoménalité revient au même, la phénoménologie a nécessairement une dimension herméneutique. Peut-être commençons-nous alors à entrevoir la spécificité de l'approche phénoménologique de la vérité ou du concept de vérité phénoménologique dont Heidegger nous propose la définition suivante qui appellerait de longs commentaires, la vérité phénoménologique, ouverture de l'être et veritas transcendentalis. Le paragraphe 44 de Seine Zeit, explicitement dédié au phénomène de la vérité, confirme que l'indicateur lexical de l'approche phénoménologique de la vérité est le terme Erschlossenheit, ouverture. Le témoin capital de Heidegger est Aristote et sa thèse d'après laquelle la philosophie comme telle a affaire à la vérité, la philosophie est peri tes aletheas, quels que soient les objets dont elle s'occupe aussi de la vérité ou de leur vérité. Ce qui pousse les philosophes à aller de l'avant, ce n'est rien d'autre que la vérité elle-même. C'est contraint par la vérité elle-même qu'ils menèrent leurs recherches, traduit Heidegger, une phrase d'Aristote. Philosopher, c'est philosopher sur la vérité et plus précisément encore apophainestai tes aletheas, ce qui ne signifie pas seulement, comme le suggère la traduction tricot, exposer ses vues sur la vérité, mais selon l'explication qu'en donne Heidegger, un faire voir qui met en lumière eu égard à et dans la lumière de la vérité le sens des phénomènes. Ce n'est que sur la toile de fond de ces formules phénoménologiques qu'on peut comprendre ce qu'Aristote avait en vue quand il définissait la philosophie comme science de la vérité. Le deuxième allié de Heidegger est évidemment Husserl, qui cite seulement dans une note à la fin de sa critique, qui est plutôt une déconstruction du concept traditionnel de la vérité adéquation. Fort de cet appui, il peut se vouer à la tâche positive qui lui tient le plus à cœur, dégager le fondement du phénomène originaire de la vérité. C'est en 1930 que Heidegger donne sa célèbre conférence « Vom Wesen der Wahrheit » qui ne sera publiée qu'en 1943 en attendant d'être rééditée dans le recueil de textes intitulé « Wegmarken ». Deux remarques à propos de ce texte. Les réflexions de Heidegger prennent leur départ avec une analyse du concept courant de la vérité, mot usé et émoussé comme un couteau qui a trop servi. La vérité y est comprise comme ce qui rend le vrai vrai. Par exemple, dire à quelqu'un « c'était un vrai plaisir de vous avoir rencontré », propos que j'adresse sincèrement à tous les participants de cette écarde, c'est souligner l'effectivité du sentiment éprouvé. Mais l'équation entre le vrai et l'effectif ne se laisse pas maintenir jusqu'au bout. Une fausse joie ou un faux foulard Hermès ont leur réalité propre. Ils ne sont ni irréels ni inexistants. En filant l'exemple du produit de marque et des nombreuses contrefaçons qu'on trouve sur le marché, nous pouvons dire que toute vérité peut être contrefaite. Dans la vie ordinaire, le vrai et l'authentique semblent aller de pair. Comment savoir si j'ai affaire à un vrai foulard Hermès en exigeant un certificat d'authenticité délivré par un expert mandaté. Non seulement je dois avoir la conviction que l'objet est authentique, mais son authenticité me doit être certifiée, vérité et certitude. Le malaise qui s'empare de moi quand je doute de l'authenticité d'une chose ou d'une situation s'exprime en allemand dans la formule « hier stimmt etwas nicht » qu'il faut rendre en français par « quelque chose cloche ici ». Au contraire, je dis « es stimmt » alléguant un accord qui a sa source dans la chose elle-même. La vérité ainsi comprise est une affaire d'accord et de désaccord dans la chose même. Ce qui est désaccordé sonne faux, comme le savent tous les accordeurs de piano. Cette entrée en matière nous a déjà éloignés de la conception d'après laquelle la vérité ne serait rien d'autre que l'adéquation d'une proposition avec un état de choses. Cette conception réductrice ne rend pas justice à la triple valence du verbe stimmen, accorder, qui désigne trois choses. La Stimmigkeit, objective de la chose, qui est pleinement en accord avec elle-même. L'accord intersubjectif, c'est-à-dire le consensus de ceux qui se sont mis d'accord sur quelque chose. Über Einstimmung, et l'adéquation, la concordance entre une proposition et un état de choses. En négligeant trop le deuxième sens, Über Einstimmung, que privilégie Habermas et ses disciples dans leur théorie intersubjective de la vérité, Heidegger souligne que la définition traditionnelle de la vérité comme adéquatio rei et intellectus peut être lu dans les deux sens, de sorte qu'on ne saurait éluder la question de savoir ce qui se conforme à quoi. Est-ce l'intellect qui doit se conformer à la chose ou la chose qui doit se conformer aux exigences de l'intellect? Comment concevoir le rapport entre Sachwahrheit, la vérité objective de la chose, et Satzwahrheit, la vérité d'une proposition. Deuxième remarque, pour cela, il est utile de faire un pas en arrière en revenant des théories modernes de la vérité correspondance à l'époque médiévale qui a donné naissance à cette définition. Chez Thomas d'Aquin et d'autres penseurs, l'idée de vérité correspondance ou d'adéquation héritée d'Aristote est en quelque sorte fondée par en haut dans l'intellect divin créateur auquel toute réalité créée est conforme. En reprenant le verbe stimmen, nous pouvons ainsi lui ajouter une quatrième signification consistant à faire de Dieu l'accordeur universel, idée dont on trouve encore un ultime écho dans la conception leibnizienne de l'harmonie préétablie. Qu'arrive-t-il si l'on ampute l'idée de vérité de cette clé de voûte théologique? Sous l'effet de la sécularisation, l'idée de création donne naissance à la conception d'un monde planifié et planifiable, tout se passant comme si le providentialisme était la pièce de résistance du créationnisme ou du néo-créationnisme. La logique règne alors en maîtresse absolue sur le rationalisme classique et l'Aussagenwahrheit triomphe de la Sachwahrheit, comme elle le fait encore dans la plupart des théories contemporaines de la vérité. Le problème ne peut bouger que si l'on se livre à un questionnement de type transcendantal portant sur les conditions de possibilité de tout accord. Une enquête de ce type est phénoménologique et philologique en même temps. Pour élucider le phénomène de l'accord, nous devons prêter attention aux données lexicales, c'est-à-dire aux multiples sens du verbe « s'accorder ». L'accord peut être fondé sur la ressemblance externe entre deux objets. Quand on parle de l'accord d'un énoncé avec un état de choses, on a affaire à une relation qui n'a rien de mimétique. La proposition n'imite pas la chose, sauf peut-être chez le premier Wittgenstein. L'énoncé n'est pas une copie conforme de l'état de choses, comme l'est une photographie. L'adéquation qui est postulée dans la définition classique de la vérité est une simple Angleichung entre une proposition et un état de choses qui ne doit pas être confondue avec une Gleichwerdung, une équivalence. La question décisive est alors celle du statut de cette mise en correspondance à laquelle il faut absolument conserver son sens dynamique, semblable à la mise en intrigue dont parle Ricoeur à propos du récit. La proposition implique la représentation d'un objet, Gegenstand, qui se rend présent. La rencontre de la représentation et du représenté se produit dans un espace de rencontre qui préexiste au jeu de la représentation. En aucun cas, la représentation ne peut produire cette ouverture, cette Erschlossenheit, qui est l'ouverture d'un champ de présence. Sans ouverture, Offenständigkeit, littéralement un se tenir ouvert à l'étant en tant qu'étant, ouverture qui s'exprime dans une diversité d'attitudes et de comportements, le Dasein serait à jamais incapable d'avoir un rapport au vrai. Heidegger en tire une conclusion qui forme le roc inébranlable sur lequel se s'édifieront toutes ces réflexions ultérieures concernant la vérité n'est pas originairement domiciliée dans l'énoncé. Elle ne l'est pas parce que le discours propositionnel se meut à l'intérieur des limites de la représentation, ne peut être vrai qu'une chose ou un état de choses dont nous nous faisons une représentation adéquate. Cette thèse négative nous oblige à nous intéresser aux conditions de possibilité de la vérité adéquation. Heidegger ouvre ici une perspective nouvelle qui équivaut à un véritable coup de théâtre. La vérité et la liberté sont deux phénomènes inséparables parce que de part et d'autre, nous avons affaire à une ouverture. Erschlossenheit et Entschlossenheit marchent la main dans la main. Il ne s'agit pas seulement de souligner que seul un être libre peut reconnaître la vérité, admettre un fait ou le dénier, il s'agit de découvrir la même liberté à même les choses capables de se révéler pour ce qu'elles sont, C'est pourquoi Heidegger précise « la liberté est l'essence même de la vérité ». Le risque d'un subjectivisme qui livrerait la vérité à l'arbitraire du sujet « c'est moi qui décide de ce qui est vrai », dit le dictateur ou l'idéologue, ne peut être surmonté que si l'on redéfinit le concept de liberté pour en faire autre chose que la propriété d'un vouloir humain, c'est-à-dire le libre arbitre. Si la liberté est l'essence de la vérité, la réciproque doit être vraie aussi. La liberté ne se comprend qu'en référence à l'essence de la vérité. Du libre arbitre, nous passons à la capacité de laisser être les choses ce qu'elles sont. Il ne s'agit pas d'une réceptivité purement passive, mais d'une attitude en quelque sorte active que Heidegger glose au moyen de deux mots allemands qui relèvent du champ sémantique du vrai, Gewähren, accorder au sens de accorder une grâce, et Wahrnis, l'accueil, l'abritement. La vérité, cela se respecte et cela suppose une liberté capable de respect. Le laisser-être implique une forme d'engagement, sich einlassen, qu'on pourrait qualifier d'ontologique. C'est cet engagement que Heidegger retrouve dans la signification originelle de la vérité, aletheia, comme des occultations. La représentation qui prétend être le miroir parfait des choses ne les laisse justement pas être ce qu'elles sont. En voulant reproduire la vérité, la représentation rend le rendez-vous avec elle impossible, car on ne peut parler d'une rencontre que là où on s'expose à autrui. Une rencontre dont on sait par avance comment elle se déroulera n'en est pas une. En associant aussi étroitement les notions de vérité et de liberté, Heidegger donne toute sa force à l'idée d'une épreuve de la vérité, qui n'est épreuve que pour celui qui s'expose à elle. Ce lien entre le laisser-être et l'exposition, Aussetzung, est le nœud de l'élucidation phénoménologique du phénomène vérité. Il n'y a pas de liberté plus haute que celle qui s'expose au décèlement, Entborgenheit, de l'étang. La liberté essentielle n'est pas une propriété purement humaine dont on peut se servir à sa guise, pas plus que le langage n'est un instrument et que la vérité n'est la propriété d'une proposition. La liberté qui s'ouvre à l'être ouvre par le fait même une histoire essentielle. Et il n'y a pas d'autre histoire que celle des rendez-vous historiques avec la vérité. De la manière dont l'essence originaire de la vérité se déploie, jaillissent les rares et simples décisions de l'histoire, écrit Heidegger. Les trois occurrences du syntagme heideggerien de phénomène de la vérité que je viens d'évoquer nous fournissent également une clé pour comprendre le projet d'une herméneutique philosophique comme celle de Gadamer, exposée dans son maître livre de 1960, Wahrheit und Methode, Vérité et méthode. L'herméneutique philosophique que Gadamer voulait fonder n'est pas une méthodologie des sciences de l'esprit et ce n'est pas non plus un traité méthodologique. Il s'agit d'une entreprise philosophique beaucoup plus ambitieuse, élucider le phénomène de la compréhension et le genre de vérité auquel la compréhension a affaire. Gadamer, vous le savez, se donnait pour tâche de discerner partout où elle se rencontre l'expérience de vérité qui dépasse le domaine soumis au contrôle de la méthode scientifique et de l'interroger sur sa légitimation scientifique. De quelle expérience plurielle de vérité s'agit-il au juste ? D'après Gadamer, si nous nous tournons vers la philosophie, l'art et l'histoire, nous y découvrons des types d'expériences dans lesquelles une vérité se manifeste qui ne peut être vérifiée par les moyens méthodologiques de la science. Peut-être, c'est ce que je me suis demandé dans la troisième partie du Buisson Ardent, peut-être y a-t-il encore d'autres expériences non scientifiques de la vérité que Gadamer ne mentionne pas. Qu'en est-il, par exemple, des prétentions de vérité élevées par la conscience religieuse ? Ce sera le sujet de notre colloque de Montréal, organisé par Philippe Capel et Jean Grondin début octobre, et c'est là que je poursuivrai cette question-là. Ce qui importe, c'est le cap que Gadamer fixait à son enquête, qui s'achève sur une thèse capitale et célèbre. C'était là-dessus que j'avais terminé autrefois ma maîtrise en théologie. En tant qu'êtres qui comprennent, nous sommes entraînés dans un advenir de vérité et nous arrivons trop tard si nous voulons savoir ce que nous devons croire. Ces considérations, un bref dialogue avec Heidegger et Gadamer, me semble, ou du moins je l'espère, fournir un soubassement suffisamment solide pour légitimer l'expression « Rendez-vous avec la vérité » qui sera le titre de l'ouvrage dont je vous parle ici. Un survol des différentes théories de la vérité qui se sont développées au XXe siècle dans le sillage des célèbres Lowell Lectures de William James, donné en novembre 1906 à Boston, dans lequel il esquissait sa théorie pragmatique de la vérité, qui dans la deuxième moitié du XXe siècle a connu une renaissance impressionnante avec le néopragmatisme de Richard Rorty, nous met en présence d'une liste impressionnante de dénominations. Théorie pragmatiste, vérificationnelle, vérité correspondance, vérité cohérence, théorie sémantique, communicationnelle, jusqu'aux théories déflationnistes qui proclament haut et fort que la vérité n'est pas ce qui importe, et ainsi de suite. Voici ma question qui sous-tend la recherche de ce livre. Ces théories que j'admire et que je respecte épuisent-elles tout ce qu'il y a à dire sur la vérité d'un point de vue philosophique ? Ou s'agit-il simplement d'une manière, à côté de bien d'autres, de prendre rendez-vous avec le phénomène vérité ? Voilà la question qui ne cesse de me hanter. Les philosophes qui ne jurent que par les théories de la vérité, et ils sont très nombreux aujourd'hui, ou qui les mettent en concurrence, me font peu ou prou penser à des champignons. Des champignons aussi, parce que ça prolifère un peu trop. à des champions d'échecs qui consacrent toutes leurs énergies et leur ingéniosité considérable à disputer des tournois internationaux en oubliant prestement que d'autres jeux d'une toute autre nature et avec d'autres enjeux se déroulent sur une autre scène, celle que Kant évoque quand il parle du grand jeu de la vie auquel nous participons tous en tant que nous sommes des citoyens du monde. Le profane, j'en suis, qui voudrait donner son avis sur les parties actuellement disputées sur l'échiquier des théories de la vérité, doit s'attendre à ne rencontrer que mépris de la part de ces grands champions qui estiment que les incompétents qui ne comprennent rien aux épineux problèmes des conditions de vérité des énoncés n'ont pas voix au chapitre. Cela ne m'empêche pas de me demander quelles expériences motivent ma propre quête de la vérité, à quel genre de phénomène j'ai affaire et comment je me situe par rapport à ces phénomènes et aussi, et là je suis débiteur de Michel Foucault, Courage la vérité, de quel courage il faut faire preuve lors des rendez-vous que la vérité nous fixe. Car un penseur qui oublierait que quel que soit le problème dont il s'occupe, c'est d'abord avec la vérité qu'il a rendez-vous, cesserait d'être un philosophe. Rendez-vous avec la vérité, donc. Cette simple métaphore ne paraît pas peser bien lourd dans la balance quand il s'agit de s'expliquer sur un concept philosophique aussi fondamental que celui de la vérité. Même le poète, en l'occurrence il s'agit de Paul Celan, encore lui, nous met en garde contre un recours abusif aux métaphores quand il parle du rendez-vous avec la vérité. Ein dröhnen, es ist die Wahrheit selbst unter die Menschen getreten, mitten ins Metaphern, Gestöber. Traduction Jean-Pierre Lefebvre. Un éclat, je préférerais dire un fracas, mais enfin, un éclat, c'est la vérité même qui est entrée parmi les hommes au beau milieu du tourbillon des métaphores. Comment rencontrer la vérité elle-même au milieu du tourbillonnement des métaphores? Telle pourrait être exprimée en langage métaphorique, justement, ma question directrice. En parlant d'un rendez-vous avec la vérité, je m'expose au reproche de commettre une double méprise catégoriale. Première méprise, à première vue, rien ne semble m'autoriser à transformer l'adjectif « vrai » qui désigne la propriété d'une proposition en verbe décrivant un événement, celui d'une rencontre, justement. « Rendez-vous » est un terme plurivoque qui peut avoir une signification différente selon le contexte dans lequel on l'emploie. Les rendez-vous de deux amoureux, le rendez-vous avec un dentiste, avec un supérieur hiérarchique, par exemple le doyen de la nouvelle faculté, le nouveau doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, une convocation au tribunal, ce sont là des rencontres extrêmement différentes. Monseigneur l'astre solaire, comme je ne l'admire pas beaucoup, m'enlève son feu. Ouais, m'aide son feu, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux, tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous, chante Georges Brassens. Malgré toutes leurs différences, les rendez-vous partagent néanmoins un air de famille qu'on peut cerner en partant du verbe « se rendre », y compris la signification originellement militaire du mot où le rendez-vous se transforme en commandement, voire en ultimatum « avoue que tu es vaincu, déposez les armes ». Certains rendez-vous avec la vérité nous laissent en effet totalement désarmés. Un rendez-vous n'a pas nécessairement besoin d'être fixé et arrangé d'avance. Il peut aussi survenir à l'improviste, et souvent ce sont d'ailleurs les rencontres imprévues qui sont plus lourdes de conséquences que les rendez-vous arrangés, car les rendez-vous auxquels nous ne nous attendions pas font événement. Événement de la vérité. Deuxième méprise, en parlant de la vérité, il semblerait que je cautionne la personnification d'une notion abstraite, ce qui ouvre la porte à tous les abus et à toutes les dérives. À ce soupçon, je répondrai par l'argument herméneutique suivant. Les personnifications, à condition qu'on n'oublie pas qu'on a affaire à des hypostases, peuvent avoir une fonction heuristique. Elles nous aident à formuler des questions qui autrement ne nous viendraient même pas à l'idée. La personnification de la sagesse, dans le livre des Proverbes de la Bible, nous offre un excellent exemple de l'approfondissement de l'interrogation ou des interrogations qu'elle rend possible. Pour conclure les travaux de notre colloque, j'esquisserai très rapidement une manière de un rendez-vous, mettons, provisoire en méditant trois textes de facture littéraire très différente qui me donnent infiniment à penser, ne fût-ce que par la force des images utilisées. Est-ce que j'ai un quart d'heure encore? Ça va? Oh, mais quelle générosité surprenante. Merci beaucoup. Première image, l'archer et la cible, Aristote. Il me semble bon, si on se rend à un rendez-vous, de commencer par une parole de confiance et d'encouragement. Au lieu de se décourager d'entrée de jeu, le rendez-vous n'aura pas lieu. Je la trouve au début du livre Petit Alpha de la métaphysique qui assure la jonction entre les livres A et B, et ce petit texte d'une page et demie a pour centre de gravité le mot « vérité ». En le lisant, j'ai presque l'impression d'être en présence d'un De Veritate en miniature. D'entrée de jeu, Aristote rassure les apprentis philosophes que nous sommes. Ne cédons pas trop vite au découragement en croyant que l'investigation, théoria de la vérité, serait une enquête trop difficile pour nous. Ce qui le prouve, c'est la façon dont Aristote relie l'histoire de ses propres devanciers. Aristote est le premier historien de la philosophie, comme nous le savons, au livre A. Pas plus qu'il ne proclame, comme le font beaucoup de philosophes contemporains, après nous le déluge, autrement dit, c'est moi qui détiens le dernier mot en cette matière. Il ne dit, comme le font d'autres philosophes contemporains, et pas seulement contemporains, avant moi il n'y avait que le déluge, c'est-à-dire avant moi il n'y avait que de l'erreur. Aristote a au contraire conscience de s'inscrire dans une longue lignée de chercheurs de vérité qui ne s'éteindra pas avec lui. C'est ce qu'il exprime moyennant l'image proverbiale de l'archer qui vise une cible aussi grosse qu'une porte. Il faut vraiment être très maladroit pour la rater. Citation. La spéculation sur la vérité est en un sens difficile et en autre sens facile. Ce qui le prouve, c'est que nul ne peut atteindre adéquatement la vérité, ni la manquer tout à fait. Chaque philosophe trouve à dire quelque chose sur la nature. En lui-même, cet apport n'est rien sans doute, il est peu de choses, mais l'ensemble de toutes les réflexions produit de féconds résultats, de sorte qu'il en est de la vérité, semble-t-il, comme de ce que dit le proverbe « qui ne mettrait la flèche dans une porte ?» Mais cette parole d'encouragement se double immédiatement d'un avertissement. Mais le fait que nous pouvons posséder une vérité dans son ensemble et ne pas atteindre la partie précise que nous visons montre bien la difficulté de l'entreprise. Il ne suffit pas d'atteindre une vérité, il faut en outre savoir quelle vérité on a atteint. Autrement dit, pour rester dans l'image de l'archer et la cible, il faut localiser le point d'impact précis de nos flèches. Et c'est à nous qu'incombe ce travail de localisation qui est un travail de discernement critique. On ne saurait s'y dérober en prétendant que la vérité est inaccessible. Ici intervient une deuxième image, celle que Heidegger aime citer. Heidegger n'aime pas du tout l'image de la cible, il veut être seul à l'atteindre. Ce que les yeux des chauves-souris sont en effet à l'éclat du jour, l'intelligence de notre âme l'est aux choses qui sont de toutes les plus naturellement évidentes. Plus loin dans le texte, alors, il est déjà engagé dans un débat avec le scepticisme des sophistes, et contre lesquels il prend la défense du principe de contradiction, en soutenant qu'un monde qui n'est pas régi par le principe de contradiction est non seulement inconcevable par notre intellect, mais aussi un monde impraticable, dans lequel nous ne pouvons pas nous orienter. Aristote avance un argument ad hominem qui ne choisit pas au hasard. Pourquoi, se demande-t-il, un homme qui à l'aube rencontre un puits ou un précipice, n'y marche-t-il pas? Mais pourquoi le voyons-nous au contraire se tenir sur ses gardes, comme s'il pensait qu'il n'est pas également bon et mauvais d'y tomber? Vous avez reconnu l'allusion à la célèbre scène du Tête-à-tête de Platon, où un philosophe astronome qui a la tête dans les étoiles tombe au fond d'un puits, ce qui déclenche le rire de la servante de Thrace qui observe cette scène. Vous voyez le magnifique livre de Hans Blumenberg, « Le rire de la servante de Thrace », une histoire des origines de la théorie, livre qui m'a beaucoup inspiré, dans la mesure où il m'a aidé à comprendre le fait de ma chute dans l'ascenseur de l'Institut catholique le soir même de ma soutenance de thèse, non pas simplement comme un petit lapsus, mais comme un accident métaphysique grâce auquel je m'inscris dans une très longue lignée. Savoir distinguer le meilleur et le pire, comme le suggère l'exemple de l'homme intelligent qui regarde où il met ses pieds, suggère que se soucier de vérité, expression aristotélicienne, n'est pas une mince affaire, d'autant moins que l'homme qui ne jure que par des opinions ne se trouve pas dans une saine disposition à l'égard de la vérité, nous dit Aristote. La dénonciation de la doctrine intempérante qui interdit à la pensée de définir quoi que ce soit. D'Aristote se focalise bien entendu sur Protagoras et sa thèse d'après laquelle tout phénomène tel qu'il se manifeste est vrai. Panto phenomenon ho phainetai aletes einai, thèse qu'Aristote réduit un peu trop précipitamment à l'idée d'après laquelle tout ce qui paraît vrai à chacun est vrai. Le présupposé qui sous-tend son argumentation est que la vérité ne doit pas se décider d'après le plus ou moins grand nombre de voies. La vérité est non négociable et ne s'obtient pas en la mettant aux voix ou aux enchères. Si, dans une démocratie, la majorité a raison, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle soit dans le vrai. Connaissant la force de ses adversaires sensualistes, Aristote évite toutefois de les dénigrer purement et simplement. Ce qui l'en empêche, c'est également l'autorité littéraire d'Homère. Hector, en proie au délire consécutif à sa blessure, je cite, « pense d'autres pensées ». Ce qui suppose que ceux qui pensent de travers ont encore des pensées, bien que ce ne soient plus les mêmes. Comme ce serait rassurant si le fou n'était pas un penseur. Cette citation met Aristote dans l'embarras. J'adore ça. S'il y a deux sortes de raisons, les êtres réels aussi sont à la fois ainsi et non ainsi. Si ça pense, même dans le délire, il se pourrait bien qu'il y ait une part de vérité dans la folie. La belle assurance dont Aristote avait fait preuve en nous proposant l'image de l'archer de la cible s'effrite alors pour laisser place à un découragement qu'illustre un autre proverbe. Poursuivre des oiseaux au vol, voilà ce qui serait la recherche de la vérité. Même si Aristote s'empresse de restaurer notre confiance, il nous a laissé ces deux images contrastées, l'une et l'autre tirées de la sagesse proverbiale, qui nous donne infiniment à penser, la cible qu'il est presque impossible de rater, et les oiseaux au vol qu'il est presque impossible d'attraper. Deuxième exemple, 5 minutes, 10, bon. Édipe et la Sphinx, Nietzsche. Dans la préface de Par-delà bien et mal, prélude à une philosophie de l'avenir, écrite en juin 1885 à Sils-Maria, Nietzsche souligne le féminin du substantif « die Wahrheit ». Comme une femme, la vérité veut être séduite et conquise, ce dont les philosophes dogmatiques, trop sûrs d'eux-mêmes, sont incapables. Dès le paragraphe 1, vous connaissez tous ce texte, de la première partie du livre qui traite des préjugés des philosophes, Nietzsche s'interroge sur la volonté de vérité ou la véracité, Wahrhaftigkeit, censée caractériser l'attitude des philosophes à la différence de celle des sophistes. De quoi retourne cette volonté de vérité, se demande Nietzsche, ou ce que dans la première version du même paragraphe, il avait appelé l'aspiration à la vérité, Verlangen nach Wahrheit. Il s'agit là, avoue-t-il, dans la version préliminaire, de la question la plus difficile, mais aussi la plus digne d'être posée, die Frage würdigste aller Fragen. Pour expliciter cette Fragwürdigkeit, Nietzsche évoque la rencontre d'Édipe et de la Sphinx. Face à la question « qu'est-ce que la vérité ?», nous nous retrouvons dans la situation d'Édipe. Il nous faut à tout prix trouver une réponse. C'est une question de vie ou de mort. La question proprement nietzschéenne « qu'est-ce qui, en nous, tend à la vérité ?» opère alors une étrange redistribution des rôles. Le philosophe, au sens nietzschéen, celui que le paragraphe 2 de Par-delà bien et mal définit comme le philosophe du dangereux peut-être dans tous les sens du mot, s'arroge le droit d'interroger la sphinx vérité, ce que ne fait pas le jeune homme du prologue de Parménide. Il est muet comme une carpe devant la déesse vérité. Citation. Le problème de la valeur de la vérité s'est présenté à nous. Où était-ce nous qui nous présentions au problème? Qui de nous est ici Édipe? Qui est la sphinx? C'est, semble-t-il, un rendez-vous de questions et de points d'interrogation. Le problème de la vérité n'est donc pas une simple question académique. C'est une question risquée qui se paye d'un certain prix qui, le cas échéant, peut être très élevé. C'est ce qui apparaît au plus tard quand nous découvrons que nous-mêmes sommes compris dans cette question. Dans la légende thébaine qui est à l'origine de la tragédie d'Édipe, l'interrogatoire de la sphinx revêt la forme d'une simple devinette. Édipe n'a guère de mal à trouver la réponse à la question posée, qui semble se ramener à la question « qu'est-ce que l'homme ?» Réponse, un animal qui commence par marcher à quatre pattes, qui apprend ensuite à se tenir debout sur ses deux jambes et qui finit par se servir d'une canne. Nous avons plusieurs témoins de cette possibilité parmi nous au cours de ce colloque. Mais cette question en cache une autre plus retorse qui finit par rattraper Édipe. Qui es-tu, toi, l'humain, dont le nom est Oedipus, le claudiquant? Question dans laquelle, dans la tragédie, Édipe sera le plus en plus profondément empêtré. Dans son ouvrage magistral « Édipe ou la légende du conquérant » paru en 1944, réédité en 1981, Marie Delcourt, qui elle-même s'appuyait sur les travaux de Carl Robert, a identifié 6 grands thèmes mythiques qui sous-tendent la légende thébaine d'Édipe. Premièrement, l'enfant exposé. Deuxièmement, le meurtre du père, qui est en réalité une passation de pouvoir entre le vieux et le jeune roi. Troisièmement, la victoire sur la sphinx. Quatrièmement, la solution d'une énigme. Cinquièmement, le mariage avec la princesse par le héros qui a triomphé du monstre. Sixièmement, l'inceste, mère-fils. Ces thèmes ont d'abord existé indépendamment avant d'être fusionnés en un seul récit épique dont Euripide s'est inspiré pour composer les Phéniciennes et Sophocle pour Édipe roi, tragédie sur laquelle s'appuyait Freud pour construire sa théorie du complexe d'Édipe. Dans la légende thébaine reprise par les tragiques, la victoire sur la sphinx est l'élément central. Elle seule constitue une épreuve au sens fort du terme. La représentation la plus connue, nous l'avons tous, je suppose, devant notre regard intérieur, nous montre un personnage ailé, à corps léonin, siégeant sur une colonne, avec à ses pieds un Édipe absorbé par ses pensées, une sorte de penseur de Rodin avant la lettre. La sphinx trône au-dessus du penseur qui se concentre pour résoudre un problème intellectuel. Cette représentation suggère que la victoire d'Édipe est avant tout une prouesse intellectuelle. En résolvant l'énigme, le héros prouve sa supériorité intellectuelle. Mais, comme le montre magnifiquement Delcourt, dans l'art grec, on trouve toutefois d'autres représentations nettement moins rassurantes, dans lesquelles Édipe et la Sphinx sont engagés dans un corps à corps effrayant, un véritable agone, une lutte à la vie et à la mort, dont on devine le caractère potentiellement mortel. Elles illustrent ce que suggère déjà l'étymologie populaire du mot « sphinx », tiré du verbe « sphigein », « étouffer » ou « étrangler ». La sphinx originelle, c'est un boa constrictor. La sphinx, dans ses représentations, tient entre ses griffes un homme nu, à la manière d'un rapace, prêt à dévorer la proie qu'elle rencontre sur son chemin. Démon questionneur, la sphinx est d'abord un démon écrasant, écrit Delcourt, ou plutôt, elle est à la fois un démon écrasant et une âme en peine. Je cite, « Ses ailes la prédestinaient à incarner une âme en peine, avide de son et d'amour, mais séduisante et capable de chanter, une sorte de sirène, sauvage. Son corps de lionne, son nom d'angoissante, la prédestinait à incarner un cauchemar opprimant. » Si face à la vérité, comme le dit Nietzsche, nous nous trouvons dans une situation semblable à celle d'Édipe devant la Sphinx, nous ne pouvons pas éluder les questions qui s'imposent à nous quand nous sommes en proie à l'angoisse. Par le fait même, nous sommes invités à nous demander ce qui se passe véritablement lors de cet affrontement et ce que signifie au juste la défaite de la Sphinx. D'après l'enquête ethnologique de Leissner sur les démons questionneurs, ceux-ci soumettent leurs victimes à trois sortes d'épreuves. Caresse, la caresse peut être une épreuve, coup, sa cogne, et question. De ces trois épreuves, la légende thébaine ne retient que la troisième, l'épreuve intellectuelle. Cette rationalisation secondaire, je dirais, occulte le fait que le monstre tentateur s'expose lui-même à tous les dangers qu'il fait courir. C'est cette dimension agonistique qu'a retrouvé Nietzsche quand il suggère que la rencontre avec la vérité n'est pas seulement une épreuve pour l'homme qui accepte de se poser certaines questions, mais également aussi étrange que cela puisse paraître pour la vérité elle-même. Comment comprendre le contraste entre la puérilité de la devinette et la gravité de son enjeu? Pourquoi la solution est-elle une question de vie ou de mort? Delcourt ramène ces questions à deux types fondamentaux. La chose qu'il faut savoir, désirer savoir, c'est-à-dire désirer voir, ou la chose qu'il faut comprendre. C'est la différence entre la curiosité théorique et le désir de comprendre herméneutique. Dans le premier cas, la chose qu'il faut savoir, le questionné doit montrer qu'il est initié à un secret ou qu'il connaît le nom ésotérique d'une chose ou d'un être qui peut être le nom du questionneur lui-même. Les énigmes de ce type sont les vestiges de la vieille croyance populaire qui veut qu'on ait prise sur un être dès que l'on est maître de son nom. C'est la même quête d'un nom secret de puissance que certains exégètes retrouvent dans l'épisode biblique de la révélation du nom divin en Exode 3.14. Vous voyez là-dessus les magnifiques interprétations de André Lacocque et Paul Ricoeur dans « Penser la Bible ». À première vue, la question de la Sphinx et la réponse d'Édipe nous font sortir du cadre de la quête d'un nom de puissance ou d'un secret partagé. Mais n'oublions pas que la référence à la nature bipède de l'homme est déjà inscrite dans le nom propre d'Édipe, Oïdipus, le pied beau. Il y a donc une étrange circularité herméneutique entre l'énoncé de l'énigme tétrapus, tripus, dipus, donc à quatre pieds, à trois pieds, à deux pieds, et le nom même d'Édipe. Sous la surface de la question générique, qu'est-ce que l'homme ? On devine une autre question à laquelle Édipe, le boiteux, magistralement illustré dans un tableau de Francis Bacon, vous le connaissez sans doute, a bien du mal à répondre. Qui es-tu, Édipe, le boiteux ? La réponse à cette question qui engage son identité narrative sera donnée par la tragédie, ou plutôt par les tragédies, car on ne saurait oublier qu'Édipe roi se prolonge par Édipe à colonne. Dernière remarque à propos de ce texte de Nietzsche, et après, très très brièvement, je voudrais encore évoquer un troisième texte. Ceci, derrière la comparaison nietzschéenne, se cache peut-être une allusion à une célèbre lettre que Schopenhauer avait adressée à Goethe le 11 novembre 1815. Évoquant ses futures œuvres non encore écrites, le jeune philosophe Schopenhauer confie ceci à Goethe. « Je suis alors face à moi-même comme un juge inexorable devant un prisonnier étendu sur le chevalet qu'il contraint à répondre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à demander. » Sous la plume de Schopenhauer, le juge qui doit évaluer ses actes et ses intentions se transforme en inquisiteur tortionnaire impitoyable. Le surmoi du philosophe est une sphinx beaucoup plus inquiétante encore que celle de la légende thébaine. Presque toutes les erreurs ou folies ineffables, poursuit Schopenhauer, qui remplissent les doctrines et les philosophies, me paraissent résulter de l'absence de cette probité, d'un manque de courage de la vérité. Si la vérité n'a pas été découverte, ce n'est pas faute de l'avoir cherchée, mais à cause de la volonté de découvrir encore et encore à sa place une conception toute faite, ou tout au moins, pour ne pas heurter une idée chère, dans ce but, il a fallu employer un subterfuge à l'encontre de tous et du penseur lui-même. Les philosophes, à l'exception de Schopenhauer, sont tous des tricheurs. Schopenhauer et Édipe, même combat. La volonté de savoir, c'est-à-dire la volonté du vrai, doit être impitoyable et ne reculer devant aucun sacrifice. C'est le courage, écrit Schopenhauer, d'aller jusqu'au bout du problème qui fait le philosophe. Il doit être comme l'Édipe de Sophocle, qui, cherchant à élucider son terrible destin, poursuit infatigablement sa quête, même lorsqu'il devine que la réponse ne lui réserve qu'horreur et épouvante. Mais la plupart d'entre nous portent en leur cœur une Jocaste qui supplie Édipe, pour l'amour des dieux, de ne pas s'enquérir plus avant, et nous lui cédons. C'est pour cela que la philosophie en est où elle est. À ceux qui, comme Schopenhauer, seraient tentés de s'exclamer « Saint Édipe le conquérant, priez pour nous », ne faudrait-il pas opposer, c'est ce que je me demande, le moment venu, hein, pitié pour la pauvre Jocaste. Et donc, 5 minutes, Jérôme. Qu'est-ce que la vérité, Jésus et Ponce Pilate? Même si la question « qu'est-ce que la vérité ?» fait partie du cahier de charge de tout philosophe qui se respecte, elle ne saurait être confinée dans la sphère philosophique. D'autres rendez-vous avec la vérité se sont déroulés et se déroulent ailleurs et sous d'autres modalités. L'un des exemples les plus remarquables nous est offert par l'évangile de Jean. C'est un point que je développerai plus longuement dans ma conférence de Montréal en esquissant une sorte de phénoménologie herméneutique des énoncés allétéologiques qui scandent l'évangile de Jean et qui construisent ce qui est à mes yeux un véritable parcours de la reconnaissance de la vérité. Dans le récit joannique de la Passion de Jésus, la question « qu'est-ce que la vérité ?» retentit dès la première comparution de Jésus devant le procureur romain Ponce Pilate dans son prétoire. Pilate, qui interroge Jésus sur la royauté qu'il revendique, se voit immédiatement confronté à un contre-interrogatoire surprenant. « Dis-tu cela de toi-même ?» ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Le fait que l'interrogé se transforme en interrogeant transforme l'arbitre prétendument neutre, qui n'est pas concerné par toute cette misérable affaire de dispute entre juifs querelleurs, en partie prenante. Ces questions « suis-je donc un juif ? Ton peuple et les grands prêtres t'ont livré à moi, qu'as-tu donc fait ?» sont des tentatives maladroites de retirer ses cartes du jeu. À Pilate, qui l'interroge sur la royauté qu'il revendique, Jésus répond « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Or, mon royaume n'est pas d'ici. Je suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Bon, je suis très redevable pour la lecture, mais que j'abrège très fortement ici, de mon ancien maître en exégèse néo-testamentaire à Innsbruck, Heinrich Schlier, qui a écrit un magnifique texte sur Jésus et Pilate, dont je vous livre simplement la thèse centrale. Le représentant du pouvoir politique se trouve confronté à la vérité par le témoignage de vérité rendu par le témoin de la vérité, et il est forcé, de dévoiler sa vérité à la lumière de cette vérité. Or, sa vérité à lui, c'est qu'il ignore tout de la vérité. En laissant aux exégètes qualifiés le soin d'analyser ce passage extraordinaire de l'Évangile, qui, comme vous le savez, a retenu l'attention de plus d'un philosophe, de Kierkegaard en particulier, je me contenterai de quelques remarques conclusives. Je dirais donc ceci. Il ne suffit pas de se poser la question « qu'est-ce que la vérité ?» L'important est de l'assumer véritablement, ce qui veut dire, comme le suggère Heidegger au paragraphe 2 de Seine Zeit, où il décrit la structure formelle de la question de l'être, qu'une enquête, une Untersuchung, tant soit peu sérieuse sur la vérité, et sérieuse, elle est seulement pour autant et dans la mesure où elle est aussi une quête, une Suche, qui engage totalement le sujet questionnant, comporte trois dimensions. Premièrement, un Gefragtes, un questionné. C'est la chose dont on s'inquiert en demandant qu'est-ce que la vérité. Deuxièmement, un Befragtes, un interrogé. La chose ou la personne auprès de laquelle on s'enquiert, dans le prétoire de Jérusalem, l'interrogé, c'est Jésus lui-même. Et troisièmement, et je dirais c'est précisément cela qui est la tâche aveugle des théories contemporaines de la vérité, un Erfragtes, un demandé. L'Erfragtes, dit Heidegger, c'est ce auprès de quoi le questionnement touche au but. Ce qu'on veut savoir en réalité, ce qui nous importe véritablement. La question « qu'est-ce que X ?» par exemple « qu'est-ce que la vérité ?» la question de Pilate, n'est pas la seule façon possible de s'interroger. Dans certains cas, la question « qui ?» est au moins aussi importante, sinon plus importante encore. Si Pilate congédie la question « qu'est-ce que la vérité ?», c'est parce qu'il passe à côté de la question de savoir « qui est celui qui se présente à lui comme témoin de la vérité ?» En témoignant d'une vérité à laquelle on ne peut accéder que par lui. Pilate entrevoit d'ailleurs confusément le lien entre la question « qu'est-ce que la vérité ?» et la question « qui est cet homme ?» quand il demande à Jésus « d'où es-tu ?» On ne saurait pas non plus sous-estimer le poids de la question « comment ?» qui s'enquiert du mode de manifestation et de donation de la vérité, car en phénoménologie, le plus court chemin au pourquoi des choses passe par le comment de leur manifestation. C'est à Montaigne que j'emprunte le mot de la fin de cette trop longue réflexion. Cette citation de Montaigne est déjà une parole de remerciement à l'adresse des organisateurs de ce colloque et de la demeure si hospitalière qui nous y a accueillis pour une semaine. « Je festoie et caresse la vérité en quelques mains que je la trouve et m'y rends allègrement et lui tend mes armes vaincues de loin que je la vois approcher. » Merci beaucoup.